Radio Capi, grand témoin.
Bonjour, je suis Alain Héroum-Mouchinge. Dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois Dr Gilbert Kabanda-Kourenga, général à la retraite après 47 ans de loyaux et bons services dans l'armée nationale, ancien commandant du corps de santé des FRDC, ancien président du conseil médical de l'aviation au ministère des Transports et voies de communication de la RDC et ancien ministre de la Défense. Il est actuellement ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, monsieur Héron.
Comment allez-vous? Vous voyez le jour à Bukavu, le 2 octobre 1946, le 2 octobre dernier, vous avez eu 77 ans, joyeux anniversaire.
Exact, merci.
Il n'est jamais trop tard, hein, dit-on.
Bien gentil.
Vos études primaires, vous les faites de 1954 à 1960 à la mission catholique Sainte-Thérèse de Bukavu, où vous obtenez un certificat d'études primaires avec mention grande distinction. Le 30 juin 1960, vous avez 14 ans. Comment vous avez vécu cette étape de l'indépendance de la RDC?
Il faut dire que en 1960, l'indépendance, pour nous qui étions des élèves des écoles catholiques, c'était un cauchemar.
Pourquoi?
Parce que, à ce moment-là, les missionnaires nous avaient laissé entendre que Lumumba était communiste et que le Congo allait entrer dans un épisode de troubles. Nous étions très inquiets, au point que, d'ailleurs, à l'école Sainte-Thérèse, où je terminais justement mes 6 ans primaires, on a dû avancer la fin de l'année scolaire. Au lieu de terminer l'année scolaire avec les professeurs, parce que nous avions un enseignant qui était belge en 6e primaire, et nous l'appelions professeur, il s'appelait Vera Selt, bien, comme ils avaient peur de se retrouver à Bukavu au 30 juin, ils ont quitté, ils sont partis plus tôt, et c'est un instituteur de la 5e primaire qui nous a pris en charge le dernier mois de l'année scolaire. Nous avons terminé régulièrement l'année scolaire, hein, parce que nos instituteurs à ce moment-là, c'était des hommes très compétents, et puis l'essentiel était fait, lui, il est resté là pour nous faire passer les examens. Mais c'est pour vous dire que c'était un cauchemar, hein, l'indépendance en 1960 dans les milieux catholiques.
Ailleurs, c'était indépendance tcha-tcha, et à Bukavu, en ce moment-là, qu'est-ce qui se chantait pour célébrer cette victoire
c'est
nationale?
C'est la même chose qui se chantait. Hein. Je parle ici des milieux catholiques ou l'école primaire, mais dans les milieux politiques, dans les milieux administratifs, c'était l'indépendance tcha-tcha qui se chantait. Hein.
Les études secondaires, c'est de 1960 à 66 au collège Saint-Paul de Bukavu, où vous obtenez un diplôme homologué des humanités gréco-latines avec, une fois de plus, mention grande distinction. On verra que tout au long de votre parcours, c'est une habitude pour vous, hein, les grandes distinctions. Alors, est-ce que vous avez encore quelques noms d'amis d'enfance?
Des amis d'enfance, j'en ai 3, je crois. Très rapidement, je vois un qui est à Goma, je vois un autre qui est à Lubumbashi. Il y en a pas beaucoup, hein, je dois le dire. Hein. Et on se communique très peu. Vous savez que nous avons un âge qui est au-delà de ce qu'on appelle espérance de vie dans un pays comme le nôtre. Mais j'en ai encore quelques-uns, 3 ou 4 de mon enfance.
Et quelques souvenirs d'enfance, parlez-nous de quelques anecdotes d'enfance qui vous ont marqué.
Ouf, mon Dieu, vous me posez des questions. Bon, écoutez, je vais vous dire par exemple que dernièrement j'étais chez moi, à Mouchékéré, il y a exactement 1 an. J'ai demandé de visiter ma classe de, comment on appelait ça, de kipoussi, c'est-à-dire école gardienne, voilà. Je suis entré dans cette classe-là, où j'avais fait en quelque sorte ce qu'on appelle aujourd'hui l'école gardienne. J'ai trouvé que mon banc, le banc sur lequel je m'asseyais en 1953, avec un trou pour en crier, était encore là. Et j'ai demandé au responsable de l'école de le garder, je reviendrai pour en faire un musée. Je me prépare à aller en faire un musée.
Quel souvenir, vous qui avez vécu cette transition entre la colonisation et l'indépendance, vous gardez de cette période de l'histoire du Congo?
La période de la colonisation.
Vous avez vécu cette période charnière, hein, entre la colonisation, ouais, et l'indépendance. Quelles leçons vous en tirez?
De bonnes choses et de mauvaises choses.
Commençons par les bonnes.
Les bonnes choses, c'est que, sur le plan social, la vie n'était pas dure, comme aujourd'hui. Je donne un exemple. Quand on était malade, on était soigné gratuitement à l'hôpital. Il suffisait de se rendre à l'hôpital.
Tout simplement.
Oui. L'école primaire était gratuite, comme maintenant. Le président est en train de ressusciter la gratuité de l'école primaire. Chez nous, à Bukavu, plus précisément, bon, c'est déjà une région où il y a abondance de nourriture. La faim était inconnue quand j'étais à l'école primaire. Voilà quelques exemples que je vous donne.
Généralement, pour tous les jeunes enfants, c'est le football, c'est des escapades à la rivière, des maraudes. Est-ce que vous avez fait un peu de tout ça?
Oui, j'étais un grand maraudeur.
Ah, ça c'est bien.
J'aimais beaucoup les fruits et je continue d'ailleurs à aimer les fruits. Et comme il y avait beaucoup d'espace, de jardin, beaucoup de bois avec des fruits sauvages, hein, et qui, donc des fruits qui n'étaient pas à acheter. Il y en avait beaucoup. Je passais beaucoup de temps après l'école primaire, bien sûr, hein, parce que pendant les heures de classe, je ne maraudais pas, mais c'est après que nous allions. Le goyave, les oranges, les avocats, qui étaient des fruits sauvages, entre guillemets sauvages, à ce moment-là, chez nous à Bukavu.
En évoquant les souvenirs de la transition entre la colonisation et l'époque de l'indépendance, vous avez parlé des bons souvenirs, l'école gratuite, les soins gratuits. Parlons maintenant des mauvais souvenirs ou des mauvaises leçons ou des leçons pas bonnes.
Écoutez, des leçons pas bonnes, c'est qu'on sentait une sorte d'apartheid. Hein, une sorte d'apartheid parce que il n'y avait que des écoles 100% pour noirs et des écoles 100% pour blancs. De temps en temps, les Belges, puisqu'il s'agit bien de eux, qui utilisaient certains employés, pouvaient les chasser quand ils voulaient.
Les traiter comme ils voulaient.
Oui, donc si vous faites une faute, je ne pense pas que le syndicat à ce moment-là existait. Il y a eu chez les Noirs ce qu'on appelait les évolués. Quelques Noirs avaient réussi à se mettre un peu plus au-dessus de la moyenne des autres Noirs. C'était souvent des enseignants, c'était des infirmiers, c'était des administratifs dans la fonction publique. Cela était intermédiaire entre le gros de la population et le blanc. Bon, eux, ils pouvaient déjà accéder à certains
privilèges,
certaines considération, si vous voulez. Bon, mais en général, il y avait un apartheid, mais qui ne disait pas son nom. On ne l'appelait pas apartheid.
Et pour une personne de votre génération, pensez-vous qu'il y aurait des acquis de la colonisation que l'on pourrait pérenniser aujourd'hui encore?
Bon, les acquis de la colonisation, il y a un acquis. La bonne gestion. La bonne gestion que, du reste, certains de nous-mêmes ont apprise. Le respect des biens public, la bonne moralité en société, ça ce sont des valeurs, je dois le dire, qui existaient aussi dans nos villages d'une certaine manière, mais qui n'étaient pas, si vous voulez, à prendre comme tel dans une vie que nous appelions entre guillemets civilisée. Parce que quand vous accédez aux avantages et à la culture des Européens, il fallait adopter les méthodes, le comportement des Européens. Mais là, on sentait qu'il y avait le respect du bien public, il y avait la discipline dans le comportement en général du fonctionnaire, il y avait le respect de l'heure. Je me rappelle que le travail commençait toujours à 7h30 et on devait faire en sorte que à 7h30, tous les travailleurs, l'école, tout le monde soit là. Bon, ce sont des règles de société qui sont importantes, qui régulent la vie dans une société et qui auraient dû être perpétués, qui ne l'ont pas été, malheureusement. Peut-être que nous y reviendrons.
Tout à fait. Alors, vos études universitaires, c'est de 66 à 73 à l'Université Lovanium, Université Nationale du Zaïre, campus de Kinshasa. Pourquoi pas le choix de Lubumbashi?
Je dois dire que à la dernière année, donc l'équivalent de la sixième maintenant, que nous appelions rhétorique, nous autres, nous étions déjà en quelque sorte courtisé, entre guillemets, par l'université Lovanium.
À cause de la qualité de l'enseignement.
Oui, l'université Lovanium a envoyé des brochures d'information sur Lovanium et dans mon collège, le collège Saint-Paul des Barmabites, nous avons reçu ces brochures-là. Et j'ai été séduit par la présentation de cette université et comme je voulais devenir médecin, j'ai dit, une université où je peux aller entre... Soit dit en passant, quand j'ai terminé le collège, j'avais obtenu des pères Barmabites, où j'étudiais, donc le collège était tenu par les Barmabites, qui sont italiens. J'avais obtenu une bourse d'études pour aller faire ma médecine à l'Université catholique de Milan. Mais en comparant, en voyant ce que m'offrait Lovanium et ce que m'offrait Milan, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de différence. Je me suis dit non, je reste dans mon université. Chaque année, on reconduisait ma bourse, mais chaque année, je disais, non, je viendrai, et jusque à la fin de mes études, quand j'ai terminé mes 7 ans, j'ai voulu cette fois-là aller à Milan pour faire la spécialisation en cardiologie, mais il y avait malheureusement une loi qui réquisitionnait tous les médecins congolais qui terminent, pouvaient aller dans le civil ou dans le militaire. Moi, le sort m'a mis dans le militaire. J'ai entendu un soir, au moment où je me préparais à prendre mon avion pour Milan, une ordonnance est tombée le 13 août 1973, nommant un certain capitaine médecin Gilbert Kabanda. Non, à ce moment-là, nous avions changé de nom. On n'était plus Gilbert, on était Kabanda Kuringa. Et voilà comment je suis devenu médecin militaire. Il faut dire que 2 ans auparavant, comme nous avions été réquisitionnés, nous avions été plutôt mis à l'armée pour discipline, étant donné que nous avions chahuté le pouvoir en 1971, et on nous a mis de force à l'armée, nous avions passé 2 ans comme militaires. Et c'est ainsi que, finalement, ma carrière militaire n'a pas commencé en 73 après Lovanium, elle a commencé en 71, parce que depuis 71, j'étais deuxième classe, première classe, caporal, et puis sergent, en tenue militaire, nous allions en tenue au cours à l'université, à ce moment-là, devenu campus de Kinshasa, les 2 dernières années que j'ai passées à l'armée, donc sous ce statut-là de milicien, voilà.
Alors, on y arrive, votre carrière militaire. À l'UNASA, campus de Kinshasa, vous terminez vos études de médecine. Vous êtes docteur en médecine, chirurgie et accouchement, une fois de plus avec mention distinction. Est-ce qu'il y avait déjà dans votre vie quelque chose qui vous prédisposait à la médecine?
Ah oui, c'est bien cette question-là. Je voulais devenir médecin depuis l'âge de 13 ans.
Et pourquoi?
Pourquoi, oui, c'est le moment de le dire. En 1954... ma mère est tombée malade. Et de mon village de Mouchékéré, mon petit village, juste à 3 kilomètres de la ville de Bukavu, on l'a transportée en tipoy à l'hôpital général de Bukavu. Elle était en coma. Elle ne parlait pas, elle ne bougeait pas. Nous l'avions considérée comme morte. Et 2 jours après, ceux qui allaient à l'hôpital, parce que nous autres, à ce moment-là, on ne pouvait pas accéder à l'hôpital, nous ont dit: maman va rentrer à la maison demain. Donc, moi, j'ai considéré que ma mère était ressuscitée. Et depuis ce temps-là, c'était en 1957, j'avais 11 ans, j'ai décidé de devenir médecin.
Pour ressusciter
les
autres.
Et cette idée ne m'a plus jamais quitté jusque à mon doctorat.
Wow.
Voilà.
Ah, c'est une belle anecdote, ça. Les études post-universitaires, c'est de 1974 à 1976 à l'Université La Sapienza de Rome en Italie. Vous en sortez avec un diplôme de spécialiste en médecine aéronautique et spatiale avec mention distinction. La médecine aéronautique et spatiale, pourquoi ce choix?
Et moi, j'ai pris la médecine aérospatiale parce que, comme je vous ai dit, on m'a réquisitionné à l'armée en 1973 et on m'a envoyé à Kamina à l'école de vol. Nous avions l'école de vol de l'armée à Kamina, qui était tenue par des Italiens. Nos pilotes militaires commençaient leur entraînement à la base de Kamina, sur nos propres avions, mais c'était une école tenue par des Italiens. Et comme j'étais médecin de l'école de vol, ma hiérarchie militaire a estimé qu'il fallait que j'aille me perfectionner dans la médecine qui gère tout ce qui est aviation. Et c'est ainsi que, une année seulement après mon diplôme, c'est-à-dire en 1974, j'ai eu un ordre d'aller faire la médecine aéronautique et spatiale à l'Université Sapientia de Rome. Voilà.
En un mot, pour nous qui sommes profanes, la médecine aéronautique et spatiale, c'est quoi, très brièvement?
Très brièvement, c'est la médecine qui gère notre corps, l'organisme humain, lorsque cet organisme humain est placé dans l'air ou dans l'espace. Pourquoi? Parce que lorsque vous montez en altitude, il n'y a plus suffisamment d'air. À un moment donné, il n'y en a tout simplement plus. Lorsqu'en plus vous êtes dans un avion qui vole à l'altitude que vous connaissez, vous avez déjà pris les avions, qu'il y a des vibrations, qu'il y a une atmosphère à l'intérieur de l'avion, tout cela, ces modifications physico-chimiques du milieu dans lequel vous évoluez, la mécanique de l'avion qui agit sur votre organisme, eh bien, votre corps ne fonctionne plus comme s'il était au sol. Un éclaircissement, si vous montez à 4000 mètres d'altitude, maintenant nous respirons bien, n'est-ce pas? Si vous montez au-delà de 4000 mètres d'altitude et vous y restez plus d'une heure, vous mourrez.
La pression augmente et il n'y a pas d'oxygène.
Non, la pression diminue, c'est la pression de l'air qui diminue.
Oui.
Et la pression de l'air est faite à 21% par l'oxygène. Donc, c'est un petit exemple que je vous donne. Maintenant, spatial, lorsque vous prenez des engins comme les engins spatiaux qui vont au-delà de l'espace, à la Lune et autres, là où il y a la pesanteur, donc vous n'avez plus de poids, vous comprenez que votre physiologie change.
Il y a des répercussions sur le corps.
Aéronautique et spatial vous fait changer de fonctionnement physiologique. Et c'est cette médecine-là qui fait en sorte que, tout en étant dans ce milieu-là, vous puissiez vous comporter comme dans un milieu normal. Eh ben, c'est cette médecine-là qu'on appelle médecine aéronautique et spatiale.
Vous nous avez expliqué comment vous avez intégré l'armée, presque un peu forcé par le destin. Mais si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous le feriez encore?
Je le ferai davantage, avec plus de raison, parce que vous voyez la situation dans laquelle notre pays se trouve aujourd'hui. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour inviter la jeunesse congolaise à se faire réserviste, parce que notre pays est agressé, vous le savez bien, et que quand un pays est agressé, tout citoyen est appelé à prendre les armes, bien entendu, de manière organisé. C'est ainsi que notre pays a prévu d'ailleurs, et c'était sous ma démarche, une loi qui appelle tout citoyen qui en a envie de se faire réserviste de l'armée et d'être appelé aux armes en cas de besoin.
Où est-ce qu'on en est avec cette loi aujourd'hui?
Cette loi, elle est en voie d'application parce qu'il reste des mesures administratives qui devraient être mise en place par le ministère de la Défense nationale, et voilà.
Vous avez évoqué cet appel aussi du président de la République à la jeunesse congolaise de s'enrôler dans l'armée, mais profitant de cette émission, quel message vous adressez à tous ces jeunes qui continuent à hésiter, qui pensent que les conditions dans l'armée ne sont pas les meilleures et qui ont encore du mal à passer le cap?
Cette loi, plus les mesures d'application, tiendront compte de cela pour que les jeunes qui vont venir comme réservistes soient pris en charge de manière convenable. Mais au-delà de cette loi, quand le président a fait l'appel à la mobilisation générale en novembre l'année passée, il y a presque un an, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus. Il y a pas moins de 40-50 000 qui sont venus et qui sont à Kitona, à Kamina, tout ça en train d'être formés et qui vont former, constituer un sang nouveau dans nos forces armées. Donc les jeunes n'ont pas traîné les pieds,
s'inquiéter.
Non.
Moi, engagé militaire, moi, engagé militaire, moi, pas besoin de galop, soutenez-moi du riz. Serza Masamba, trahir Mwangasa, caporal Mitsotso, la guerre pour moi, y'a beau chercher vos sorrows. Yisatra, yisatra, tata, tata, mouna, gâtre, ma chère, frère, ça tombe, pas qu'on va l'imbané, commande à kafoua, mais n'a coupé quoi, ni moutou. Bête va militaire, bête va militaire, Muntu sakana, tu couvri kweto. Moga pepe, moga pepe, moyinga kanga kwe. Moga pepe, moyinga kanga kwe. Makele pa, un, deux, on sait combattant, on a soukere. Makele pa, et un, deux, on sait combattant, on a soukere. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaï. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Peter mon ami. J'ai tué Français, j'ai tué Allemand. J'ai tué Angélais, moi j'ai tué Tchécoslovaque qui m'aquerait pas. Et un, deux, on s'est combattant, on a soukéré, m'aquerait pas. Et un, deux, on s'est combattant, on a soukéré. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand la balle est sifflée, il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas Michangi, mon cher Eho, y'a cadavéré. Avec les coups de matraque, tout à coup, patatra, cadavéré. Ta femme est cadavéré. Ta mère est cadavéré. Ton grand-père est cadavéré. Ton père est cadavéré. Tes enfants cadavéré. Les rois cadavéré. Les reines cadavéré. Les empereurs cadavéré. Tous les présidents cadavéré. Les ministres cadavérés, les gardes-corps cadavérés, les montagnes cadavérés, les militaires cadavérés, les civils cadavérés, les policiers cadavérés, les gendarmes cadavérés, les travailleurs cadavérés, les sommaires cadavérés, tes chéris cadavérés, ton premier bureau cadavérés, ton deuxième bureau cadavérés, la bière cadavérés, le champagne cadavérés, le whisky cadavérés. Le vin de palme cadavre, les soulards cadavre, bicyclove cadavre, tout le monde est cadavre, moi-même est cadavre, maquelle pas, y'a un, deux, on s'est combattant, on a soukiri, maquelle pas, y'a un, deux, on s'est combattant, on a soukiri. Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient la guerre, tout le monde affamé, oh. Le coq ne va plus le coquer, cocorico. La poule ne va plus le poulet, poulet les œufs. Le footballeur ne va plus le footer, pousser les ballons. Les joueurs cadavérés, les arbitres cadavérés, le sifflet cadavérés, même les ballons cadavérés, les équipes cadavérés, diable noir cadavérés, l'étoile du Congo cadavérés, cara cadavérés, les lions incomptables cadavérés. Les léopards cadavérés, les diables roses cadavérés, les journalistes cadavérés, la radio cadavérés, la télévision cadavérés, les stades cadavérés, les supporters cadavérés. La bombe, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La
La bombe à neutron, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe atomique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les Pershing, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. HH20, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient à la bombe, tout le monde est bombé, oh. Quand vient à la bombe, tout le monde est bombé, oh. Ton pays bombé, l'URSS est bombé, les États-Unis bombé, la France est bombé, l'Italie bombé, l'Allemagne est bombé, le Congo bombé, le Zaïre bombé, l'ONU bombé, l'UNESCO bombé, l'OIE bombé, mes bœufs bombé, mes moutons bombé, mon cousinier bombé, tous les cuisiniers bombé, ma femme est bombé, les taxis-man est bombé, les hôpitaux bombé, les malades bombé, les bébés bombé, les poulaillers bombé, mes coques bombé, mon chien bombé, les écoles bombé, ma poitrine bombé, tout le monde est bombardé.
Radio Capi, grand témoin.
Dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois Dr Gilbert Kabanda Kurenga, général à la retraite après 47 ans de loyaux et bons services dans l'armée nationale, ancien commandant du corps de santé des FRDC, ancien président du conseil médical de l'aviation au ministère des Transports et voies de communication de la RDC et ancien ministre de la Défense. Il est actuellement ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. En ce qui concerne votre expérience militaire, en 71, c'est le centre d'instruction du camp colonel Tchatchi à Kinshasa, brevet de sergent de l'armée nationale congolaise ANC. En 75, école d'application pour médecins à l'Instituto Medico-Legale et de l'armée de l'air italienne à Rome, certificat de l'école d'application. En 77, diplôme du 8e cours international pour jeunes médecins militaires à Munich en Allemagne. De 2016 à 2017, au Collège des hautes études de stratégie et de défense de Kinshasa, vous obtenez un diplôme des hautes études de stratégie et de défense avec grande distinction. Vous êtes major de la promotion, un diplôme de master exécutif en sécurité internationale. Comment vous jugez aujourd'hui, en tant qu'ancien militaire, le niveau de l'instruction dans l'armée, est-ce qu'il est le même? Beaucoup ont pensé qu'avec la fin de la coopération, ça chutait, mais est-ce qu'aujourd'hui, la RDC a relevé la tête dans ce domaine?
Bon, il faut vous dire que avec ce qui nous est arrivé en 1997, c'est-à-dire l'entrée de l'AFDL, ce que vous connaissez, le mélange de ceux qui délibérateurs et de l'armée, bien, il y a eu des problèmes qui ont été générés par cela. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ce qu'il y a eu, c'est que nos centres de formation, que vous connaissez, Kotakoli, Kitona, Kamina, d'autres centres, depuis 1997, ont connu un coup qui a fait que l'instruction militaire chez nous a fortement régressé. Je vous rappelle que jusque dans les années 90, beaucoup de pays africains envoyaient leurs militaires se formaient chez nous, à Mazangungu, pour le parachutage, pour le commando, pour l'aviation, Kamina, ainsi de suite. Mais il y a eu, ce que vous connaissez très bien, depuis 1997, qui a fait reculer notre capacité de former et qui a amené notre armée au point là où elle est. Et je pense que maintenant, avec le président Félix Tshisekedi, vous avez vu comment il a fait l'appel à la jeunesse. Il y a eu la loi de programmation militaire que j'avais fait publier quand j'étais ministre de la Défense, qui va reconstruire cette armée, qui va refaire la formation, le recrutement, les équipements, ainsi de suite.
Quelle est, selon vous, l'importance pour un pays comme la RDC d'avoir un collège des hautes études de stratégie et de défense de Kinshasa que l'on a ici? On a vu certains pays envoyer leur personnalité venir étudier ici. Qu'est-ce que vous pensez de cette école?
C'est une école absolument indispensable. C'est une école de haute stratégie. On vous dit bien de haute stratégie de défense. Le Congo est un géant en Afrique et dans le monde. Lorsque vous êtes géant, vous ne pouvez pas ne pas penser à ce que vous serez agressé. Et pour prévenir les agressions, pour repousser les agressions, vous devez avoir des gens formés de haut niveau, notamment dans cette école-là. Aujourd'hui, cette école a débordé. Son nom, sa renommée a débordé les frontières nationales. Il y a beaucoup de pays africains qui commencent à envoyer des officiers étudier là-bas, des pays d'Afrique centrale, il y a même des pays au-delà de l'Afrique centrale, du Sénégal et d'ailleurs, qui ont constaté que c'est une école de très haut niveau et c'est une fierté nationale.
En ce qui concerne vos activités professionnelles dans l'armée, de 73 à 74, vous êtes médecin traitant à l'hôpital militaire de Kamina, 77 à 93, directeur du service de santé de la force aérienne zaïroise, 93 à 97, commandant du corps médical des forces armées zaïroises, 2007 à 2014, directeur général du service de santé des FRDC, de 2014 à 2018, commandant du corps de santé militaire des FRDC, et en 2018, vous êtes retraité des FRDC après 47 ans de loyaux et bons services dans l'armée. Il faut le faire, c'est pas chaque jour qu'on tombe sur des personnalités de votre trempe. Une petite question, en deux volets, quels sont les bons et les mauvais souvenirs que vous gardez de votre passage dans l'armée, après 47 ans de service?
De bons souvenirs que je garde, eh bien, il y en a beaucoup. Il y en a tellement que je ne sais pas les énumérer, mais...
Prenons-en deux, simplement, deux.
C'est que j'ai réussi à construire un quartier général pour le corps de santé militaire, qui n'existait pas. J'ai aussi réussi à créer une unité médicale d'intervention rapide. Une unité nouvelle qui n'était pas initialement dans l'organisation de nos forces armées, qui fait du médecin militaire non seulement quelqu'un qui intervient pour soigner les militaires blessés au combat, mais aussi qui, en cas de catastrophe, intervient pour secourir la population civile, prendre la population civile en charge. Il y a beaucoup d'autres choses.
Et les mauvais souvenirs?
Les mauvais souvenirs de l'armée, de passage à l'armée?
Oui, pendant les 47 ans de service.
Oui, c'est le regret que notre armée ait régressé, reculé. Vous savez que nous avions... La force publique était l'armée la plus redoutée, la plus forte de l'Afrique noire. Donc jusqu'en 1960, nous avions l'armée noire la plus forte. Eh bien, cette armée a gardé une certaine hauteur jusqu'à l'arrivée de la FDL en 1997. Malheureusement, à partir de 1997, il y a eu la régression qui a occasionné tout ce que vous connaissez comme situation à l'Est. C'est ce que je considère comme une page noire, si vous voulez, dans notre armée, mais c'est une leçon aussi. Une leçon aussi pour que notre école des hautes études de stratégie de défense apprenne à créer une armée en fonction des menaces, même des menaces pouvant venir de nos propres frères africains.
De 2021 à mars 2023, vous êtes ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Après votre passage dans un ministère de cette trempe, est-ce que vous pensez que cette page noire de l'histoire de l'armée de la RDC peut être effacée?
Elle doit être effacée.
Elle doit.
Je suis employé à contribuer à cet effacement. J'ai défini la politique de défense, qui n'était pas définie de manière claire auparavant. J'ai fait voter une loi de programmation militaire, c'est-à-dire une loi de gestion budgétaire pluriannuelle de l'armée. On prévoit 4-5 ans le développement de l'armée. J'ai fait adopter un code d'éthique et de déontologie militaire. J'ai entamé un début d'industrie de la défense. Tout cela, ce sont les bons souvenirs, et que mon successeur ou mes successeurs vont sûrement capitaliser et ajouter.
Et consolider.
Bien entendu.
Actuellement, vous êtes ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Quel est l'état des lieux de la recherche scientifique en RDC aujourd'hui?
L'état des lieux, vous avez suivi dernièrement le conclave du génie scientifique congolais que j'ai organisé au mois d'août, que le président de la République a patronné, présidé de bout en bout. L'état des lieux, il n'est pas brillant. C'est que notre recherche scientifique n'a pas la place qu'on donne à la recherche scientifique ailleurs. Pour rappel, nous avions, encore une fois jusqu'en 1960, les institutions de recherche scientifique dans les pays d'Afrique noire les plus avancées, notamment l'INERA, notamment l'IRSAC et d'autres, l'IRES à l'université Lovanium, ainsi de suite. Mais avec le temps, ils ont reculé, du moins en termes de rendement, et le ministère de la Recherche scientifique, qui devait encadrer ça, n'a pas bénéficié de suffisamment d'attention de la part du gouvernement jusqu'à mon avènement. Et à mon avènement, j'ai observé ça. J'ai vu ma hiérarchie, j'ai vu le président de la République et le premier ministre. Je leur ai rappelé ce qu'ils savent, c'est que tous les pays du monde qui veulent se développer, eh bien, ils se développent par la recherche scientifique et innovation technologique. Dieu merci. J'ai été entendu par mes deux chefs et je leur ai dit, puisque notre recherche scientifique a pratiquement disparu dans la réalité de la vie nationale, permettez-moi d'organiser un conclave du génie scientifique congolais qui va montrer que nous avons du génie dans le pays et que ce génie a besoin, comme dans tous les pays du monde, d'être encadré pour créer les valeurs socio-économiques dont le pays a besoin pour se développer. Parce qu'il n'y a que par cette voie-là que les pays se développent. C'est par leur génie scientifique que les pays se développent. Dieu merci, ma hiérarchie m'a écouté, nous avons réalisé le conclave, et maintenant, le ministère de la Recherche scientifique est placé sur une orbite tout à fait différente de l'orbite ancienne, et avec la ferme détermination du président de la République, du premier ministre, je vous donne rendez-vous dans un an. Vous constaterez que la recherche scientifique commence à donner au pays un nouveau visage. Nous avons des génies, nous avons des inventions qui peuvent, d'ici maximum, je dis bien maximum 2 ans, donner au peuple congolais une autre idée de ces chercheurs, de ces inventeurs. Parce que ce sera du « made in DRC, in Democratic Republic of Congo », donc fabriqué chez nous-mêmes.
Alors, Monsieur le ministre, vous dites que le président de la République, le Premier ministre, ils vous ont entendu. Est-ce qu'on peut espérer qu'au prochain budget, le budget de la recherche scientifique soit revu à la hausse, par exemple, pour concrétiser cette volonté politique?
C'est déjà fait. C'est déjà fait. La première décision que le président de la République a prise, c'est de faire passer le budget, la recherche scientifique, de 0,5%, retenez bien, 0,5%, à au moins 3% pour 2024. Donc, et c'est déjà fait, c'est dans le document qui est déjà au Parlement d'ailleurs. Eh bien, nous sommes à au moins 3% et il y a sûrement la volonté pour que de 3% nous avancions. Écoutez, la Chine aujourd'hui, qui est en train de devenir pratiquement la première puissance économique du monde, a un budget de recherche scientifique de 23%. Aucun pays européen, parmi les pays européens, n'a un budget de recherche scientifique inférieur à 8%. Aucun. C'est vous dire que si vous voulez devenir fort, un pays qui doit devenir fort, eh ben, sa force lui vient de la recherche scientifique, de l'invention, de l'innovation.
Dans l'actualité, tout récemment, on vous a vu aussi en international dans plusieurs congrès avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Qu'est-ce que la RDC peut attendre d'une structure comme celle-là?
Beaucoup. Je vous informe que la première bombe atomique qui a mis fin à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, a été produite aux États-Unis grâce à votre pays. Votre pays qui a fourni le combustible indispensable qu'on appelle l'uranium pour produire cette bombe atomique. Et notre uranium de Chincolobwe qui est toujours là, nous avons parmi les gisements les plus riches du monde. Nous avons aussi le premier réacteur nucléaire de l'Afrique subsaharienne qui a été installé par feu Monseigneur Luc Gillon, ancien recteur de l'Ovanium, premier recteur de l'Ovanium, en 1959. Donc nous sommes le premier pays nucléaire de l'Afrique subsaharienne. Pas pour faire la bombe, mais pour faire l'usage, ce qu'on appelle l'usage pacifique de l'énergie nucléaire. Nous avons une centrale nucléaire à l'université de Kinshasa. C'est celle-là qui est la toute première en Afrique subsaharienne. Et cette centrale, nous l'utilisons à des fins pacifiques, c'est-à-dire qu'il nous produit des résultats pour développer l'économie, développer la médecine, développer l'agriculture, développer la pharmacie, développer tout ce qui est vétérinaire, eh ben, l'énergie atomique, développer l'énergie électrique pour produire l'énergie électrique. Eh ben, nous devons absolument aussi, en tant que pays, je vous dis bien, producteur d'uranium parmi les plus importants du monde, premier pays nucléaire d'Afrique noire, nous devons absolument utiliser l'énergie atomique pour le développement de notre pays.
Congo, Congo ndemboka, mboka ngomo kengeli koi, mboka ngomo kengeli leopard. Mikolo to sekana kina mosolo ya mboka Congo ekoki to fungwani misolelo to moni bozo banyo soto sali boya kobongisa Congo aveni ebongi to sala ebongi to sala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo to sekana kina mosolo ya mboka Congo ekoki to fungwani misolelo Tomoni bozo banyo soto sali Boya kobongi sa Congo aveni Ebongi to sala, tebongi to sala Moto nyo so ata mwana Congo ya mosolo, mpembe ya nzoku Congo ya bwanya, kasa ya mbila Congo ya makasi, moto ya nkoi Congo, Congo ne mboka Congo, mboka ya bankoko Congo, mboka mwana pamba Lobi, mboko lula yango Congo, Congo ya Afrika Congo Ya kitoko Congo ya batu mayele Congo bakobikisa yo Thank you. mboka Congo, mboka ya makoko. Congo, mboka mwana pamba lobi, mboka lula yango. Zaliko eko la Congo, bako biki sayo. Congo, Congo ya bako, Congo, Congo ne mboka. Congo, Congo ne mboka, Congo.
Le grand témoin.
Okapi.
Monsieur le ministre, notre entretien est en train de tendre vers sa fin. Vous-même, depuis 2003 jusqu'à ce jour, vous êtes chef des travaux à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, chargé du cours de médecine aéronautique et spatiale. Quel message vous adressez à tous ces chercheurs congolais qui vous suivent en ce moment et qui peut-être se disent abandonnés par l'État, ne sont pas suffisamment soutenus et sont délaissés à leur propre compte?
Ils ont suivi le message du président de la République à la clôture du conclave. Ils ont suivi aussi mon message. C'est que tous ces chercheurs, à partir de notre conclave, vont être pris en compte par deux structures. Il y a une structure qu'on appelle, qui est déjà créée et qui va être fonctionnalisée dans le prochain budget, qu'on appelle Fonds National pour la Recherche Scientifique. Un fonds, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'argent, qui sera alimenté notamment par ce budget qui a été augmenté. Mais il y a une deuxième structure, qui est pratiquement contiguë à la première. C'est nous l'appelons l'incubateur. On va mettre en place une structure technico-administrative pour que tout inventeur, tout chercheur qui a vraiment de la substance dans sa recherche, soit encadré, soit incubé, comme dans une couveuse, pour que on l'aide à développer ce qu'il a en tête, ce qu'il a dans son esprit comme invention. Cette structure-là, je crois que avant la fin de toute façon de notre mandat ici, c'est-à-dire avant le 20 décembre, cette structure sera là. Donc ça fait deux structures. Le fonds, il existait déjà. L'incubateur va être créé bientôt. Eh bien, ce sont ces deux structures-là sur lesquelles les chercheurs doivent compter pour qu'ils ne soient plus comme ils ont été jusque-là.
Je venais de le dire tout à l'heure, vous continuez vous-même à étudier, à enseigner également. À 77 ans, jusqu'où êtes-vous prêt à aller?
Jusqu'où, au moment où je n'aurai plus d'énergie intellectuelle et physique.
Et qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui vous suivent et qui se découragent juste au premier essai, qui pensent que c'est fini pour eux?
Quand on est jeune, on ne peut pas se décourager. La vie est une lutte. Il faut savoir ce qu'on a en soi. Et une fois qu'on sait ce qu'on a en soi, eh bien, Dieu nous a tous donné des talents. Il suffit de découvrir le talent que vous avez en vous. Vous cherchez le bon conseiller, vous cherchez le bon manager et vous avancez. Donc la jeunesse n'a pas à se décourager. C'est un problème d'encadrement. Il est vrai que c'est nous, les aînés, qui devons créer ces conditions. Et c'est pour cela que je vous dis que dans mon cas, le cadre de la recherche scientifique, je suis en train de créer un cadre où, en fait, la jeunesse est la souche la plus nombreuse qui s'adonne à la recherche, qui invente des petits trucs, ainsi de suite. Je crois que vous êtes au courant. Eh bien, cette jeunesse-là doit savoir qu'elle sera prise en charge dans le cadre de ces deux structures dont je vous ai parlé.
Pour terminer, Monsieur le Ministre, vous êtes membre de plusieurs sociétés savantes. C'est le cas, par exemple, vous êtes membre effectif du Comité international de médecine militaire en Belgique de 1977 à 2018, membre effectif de l'Aerospace Medical Association aux États-Unis de 1985 à ce jour, membre effectif de l'Académie internationale de médecine aéronautique et spatiale de 2003 à ce jour. Vous avez également plusieurs titres honorifiques. notamment vous êtes officier de l'ordre national du Léopard en 96, commandeur de l'ordre national des héros Lumumba Kabila en 2017. Pour terminer, monsieur le ministre, un message à ce petit garçon, à cette petite fille qui vous entend et qui rêve un jour de devenir ministre, de devenir médecin, qu'est-ce que vous lui dites?
Deux choses. Un, une bonne moralité. Deuxième chose, faire un apprentissage sévère de la bonne gestion, c'est-à-dire des techniques de management. Ce sont les deux domaines dans lesquels notre jeunesse doit absolument savoir qu'il doit intensifier son apprentissage. J'insiste, la bonne moralité, moralité sociale, moralité générale, et le management, les règles de gestion qui sont universelles, eh ben, un pays qui veut devenir grand, sa jeunesse doit maîtriser ces deux valeurs.
Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir reçu grand témoin chez vous.
Merci beaucoup, monsieur Hiron.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation Alain Irung Mouchi, supervision Jean-Marc Matouaki, à la technique Hippolyte Kapanga, à la vidéo et à la photographie Clément Chimanga et Jonathan Fouanani. Merci aussi à Pascal Massirika pour sa collaboration. Vous pouvez retrouver cette émission et télécharger plusieurs autres numéros de grands témoins en allant sur www.radiocapi.net. Sachez également que cette émission est disponible sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir.